Ville PM. La voie est libre.
This victory here is the beginning of the end for Donald Trump.
Voici Luc Lavoie.
C'est le début de la fin de Donald Trump, selon Bernie Sanders, qui a remporté hier la primaire du New Hampshire, primaire démocrate. Luc Lavoie, la voix élue, bonjour.
Oui, bonjour. Je pense qu'il prend un peu ses rêves pour des réalités, M. Sanders.
Ça se pourrait, ça se pourrait. Merci aux gens de la Mauricie et du Centre du Québec de joindre à nous à cette heure. On va aller rejoindre notre correspondante, si on peut dire, au New Hampshire, Valérie Beaudoin, donc, qui était là hier. Bonjour, Valérie.
Bonjour.
Alors, toi, tu étais au rallye de Pete Buttigieg?
Oui, exactement. Donc, qui est arrivé deuxième, là, tout près de Bernie Sanders. Là, je pense qu'il lui a donné des sueurs froides dans la soirée quand même.
Bien, rappelle-nous les résultats, justement, pour les gens qui ne suivent pas ça là, à la minute près comme nous, là.
Oui, bon, Bernie Sanders, il a gagné. C'était lui qui était favori dans les sondages. Bien sûr, c'est un sénateur qui est bien connu ici parce que le Vermont, c'est juste à côté, c'est un sénateur du Vermont. Il est arrivé à environ 2 % de plus que Pete Buttigieg, bon, celui qu'on appelle Mayor Pete, qui est l'espèce de surprise du début des primaires démocrates. Par la suite, on a Amy Klobuchar, qui est la sénatrice du Minnesota, qui est arrivée en troisième. Et elle, je dirais que c'est la grande surprise de la soirée d'hier. Elle est arrivée avec près de 20 % des intentions de vote. Elle était peu connue quand même, malgré que c'est quelqu'un qui est très, très respecté, mais elle n'avait pas réussi à tirer un peu son épingle du jeu, mais elle a attiré beaucoup de gens au centre et beaucoup de gens qui étaient indécis et qui sont indépendants ici au New Hampshire. Mais pour ceux que ça a moins bien été, Elizabeth Warren et Joe Biden, c'est une soirée, bien sûr, qui est à oublier parce qu'eux étaient dans les résultats là, autour des 9-8 %. Là. C'est vraiment pas quelque chose qui a été bon pour ces deux-là.
Et en plus, c'est toi qui nous avais révélé, Valérie, qu'ils avaient la campagne de Biden essentiellement pliée bagage 2 jours avant le vote.
Oui, exactement. Ils l'ont confirmé hier en plus en disant dans la journée, ben écoutez, on va nous quitter tout de suite le New Hampshire, on s'en va en Caroline du Sud où on a des chances de l'emporter. Et il n'était même pas présent, Joe Biden, ni sa femme à son rassemblement partisan hier au New Hampshire. Donc c'est vraiment pour dire qu'il savait que les résultats allaient pas être bons. Et il s'est dit, je vais me concentrer sur autre chose. Est-ce que c'était une bonne stratégie? Peut-être sur le terrain, oui, mais dans les optiques, c'est certain que ça a l'air que Joe Biden jetait un peu la serviette au New Hampshire.
Mais il y a toujours cette espèce de, tu sais, on va employer l'expression encore une fois, d'éléphant dans la pièce, là, c'est le cas Bloomberg.
Oui.
Parce que là, à l'heure actuelle, ce sont des marginaux relativement parlants par rapport au discours politique américain. La gauche de Sanders, il y aurait l'air même à gauche du parti NPD au Canada. Puis vous avez Buttigieg qui représente aussi essentiellement un aspect marginal de l'électorat américain. Enfin, pas. Et là, il y a une panique au Parti démocrate, non?
Oui, il y a quand même une panique, mais je te dirais que les candidats du centre semblent quand même garder leur place. Le Parti démocrate avait peur que ça soit juste des candidats à la Sanders ou à la Warren qui pourraient prendre la majorité du vote. Mmh. Si on se fie à comment ils étaient en 2016, ils voulaient vraiment que ce soit Hillary Clinton et quelqu'un de l'establishment. Pete Buttigieg, oui, c'est un peu quelqu'un qui est à part du lot, mais il y a quand même des idées qui sont au centre, qui sont modérées. Et lui, hier, il avait vraiment fait un appel aux républicains qui voulaient joindre à lui. C'est un vétéran de la guerre d'Afghanistan, un vétéran de la guerre d'Irak, et il mise beaucoup là-dessus et dit qu'il respecte vraiment toutes les opinions. Dans son discours, on ne le sentait pas aussi anti-Trump que Bernie Sanders, par exemple. Il voulait peut-être plus attirer les gens qui étaient indécis.
D'accord. Alors, tout ça pour dire que tu es encore au New Hampshire et là, tu as rencontré un Franco-Américain parce qu'il y a beaucoup de Franco-Américains, évidemment, dans l'État du New Hampshire. Et un de ceux que tu as rencontré, c'est un partisan de Trump.
Oui, un pur et dur partisan de Trump. Donc, je suis allée le voir là, ce matin au lendemain des résultats de l'élection. Bon, tout d'abord, on a parlé de la campagne en général, l'élection qui s'en vient en 2020. Et lui, il va vous dire pourquoi il croit que Trump sera encore réélu en novembre. Je vous laisse l'entendre.
Je suis certain qu'il va se faire réélire pour plusieurs raisons. J'ai expliqué ça à ma copine. Qui elle c'est une démocrate enragée. Si tu écoutes, en plus de l'économie, ok, les démocrates n'ont pas un candidat viable qui va pouvoir aller contre lui. Et la tradition veut que depuis 50 ans, quelques exceptions quand même, mais le président a droit à 2 mandats.
Mm-hmm. Oui, non,
donc, c'était Roger Lafferte, là, j'avais oublié de le présenter, mais lui, c'est ce qu'il dit finalement, c'est que ça augure bien en ce moment pour Trump, donc il ne voit pas qui pourrait lui barrer la route pour la prochaine élection.
Qu'est-ce qu'il pense de Sanders?
Alors, écoutez, vous allez voir, sa réponse est très colorée, c'est très spontané aussi, parce que pour lui, Sanders, c'est une bonne nouvelle, peut-être pas pour les raisons qu'on pense, pas parce qu'il aime la candidature de Sanders, mais au contraire, il trouverait l'opposition entre Sanders et Trump assez intéressante. Je laisse encore entendre Roger Lafferte.
Je suis très content, parce que là, on va voir s'il continue à gagner, et puis je ne doute pas qu'il va gagner, ce communiste-là, on va avoir le choix. Dans un débat entre un communiste et un capitaliste. Alors, ça va être formidable!
Puis il faut se rappeler...
Le pire, c'est que c'est pas si faux que ça.
Non, non, mais il faut se rappeler aussi que la devise du New Hampshire, ce qui est écrit sur le plaque, c'est « Live free or die ».
Ouais.
C'est des anticommunistes, on peut dire, dans l'esprit de la devise du New Hampshire, c'est vraiment anticommuniste à la planche. C'est comme la liberté ou la mort. Alors, Roger, je pense, incarne bien ça.
Oui.
Il parle un bon français. Il a quel âge à peu près, Roger Lafferte?
Je vous dirais qu'il y a autour de 70 ans. C'est quelqu'un qui est vraiment impliqué dans sa communauté. Lui est la seule librairie francophone au nord-est des États-Unis. Il est une des rares aux États-Unis. Donc, je suis allée dans sa librairie, la librairie populaire. Ça, c'est au centre de Manchester. Donc, il y a des livres, des films, de la musique en français. Et lui est impliqué autant que ce soit au Club Richelieu. Il y a un Club Richelieu ici. Il va à la messe en français à chaque dimanche. Donc, il est super impliqué. Il était vraiment content voir qu'il y avait des gens du Québec qui s'intéressaient aux États-Unis puis à la question du français, parce que je lui ai dit que les gens avec qui j'allais parler, ça les intéressait beaucoup. Et il y a peut-être il n'a jamais habité au Québec, lui, mais s'il se passait quelque chose, peut-être qu'un jour il aimerait être au Québec. Je vous laisse deviner c'est quoi avec le prochain extrait.
Dans les premières années du Parti québécois, j'avais ma carte de membre. En étant américain, ben, j'avais payé mon...
Ben,
pas de droit de vote, évidemment. Hein. Ouais. Vive le Québec libre!
Il manquait juste ça. Valérie, là, Bernard a le sourire fendu jusqu'aux oreilles.
Oui.
T'aurais pu nous tenir à l'écart de ça, quand même. Un séparatiste aux États-Unis, c'est aussi pire qu'un communiste.
C'était tellement spontané. Puis il m'a demandé, bon, est-ce que je vais voir ça de ma vie? Est-ce que je vais être vivant? Est-ce qu'un jour ça se passe? Il dit, si oui, je vais venir peut-être au Québec. Là, parce que j'attends ça depuis toujours, la séparation du Québec.
Mais c'est un Franco-Américain. Il est né aux États-Unis. Lui-là.
Oui. Oui, c'est de deuxième ou troisième génération, donc il n'a jamais connu le Québec, mais il s'est toujours intéressé à la politique québécoise parce qu'il aime vraiment la question du français, c'est tellement au centre de ses préoccupations. Et c'est pour ça qu'il avait un intérêt, puis c'est un petit clin d'œil, bien sûr, à vous faire.
Valérie Beaudoin, merci beaucoup.
Merci, Valérie.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Je te souhaite un bon retour. Sois prudente. Je rappelle que tu es chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand et tu es notre envoyé spécial au New Hampshire. À la prochaine.
Salut.
Bye.
Je vais te dire, Luc, le grand perdant d'hier, c'est Biden.
Oh, c'est clair, il vient de se faire...
Oui, je pense qu'il est mort. Hein? Il va essayer.
Parce qu'il faut toujours regarder la politique américaine comme étant une dynamique. Le New Hampshire, c'est pas un État important, puis c'est même pas représentatif du pays. C'est blanc, c'est petit, c'est bon. Mais...
C'est assez à droite, assez conservateur comme État.
Assez conservateur aussi.
Ouais, ouais.
Mais c'est aussi la dynamique qu'enchaîne la première primaire de New Hampshire. Par exemple, tu regardes le cas de Klobuchar, dont je ne m'étais jamais vraiment préoccupé.
Elle, c'est Minnesota, hein? Elle vient du Minnesota.
Sénatrice du Minnesota.
Ouais.
En moins de 12 heures après sa troisième place, il y a 2 millions de dollars qui sont rentrés dans ses coffres des gens qui sont allés sur le site web et qui ont donné de l'argent. Alors, ça veut dire que l'inverse se passe aussi. Joe Biden, ça doit être difficile aujourd'hui pour ces bailleurs de fonds d'appeler du monde et dire « Pourrais-tu me donner un 200 000? Pourrais-tu me donner un 50 000? Pourrais-tu me donner un 10 000? » D'une part. D'autre part, pour qu'il remonte, il faudrait qu'il déploie une énergie folle, et je pense qu'il ne l'a plus, cette énergie-là. Je pense que c'est plus là. T'as évidemment Sanders, qui est aussi, tu sais, ça devient une gérontocratie, cette affaire-là. Ils ont tous en haut de 70 ans, à l'exception, évidemment, de Buttigieg, qui, lui, a 40 ans de moins que Sanders. Et c'est pourquoi, tantôt, je parlais de l'éléphant dans la pièce. Tant qu'on n'aura pas vu Super Tuesday le 3 mars, entre-temps, il va y avoir une primaire en Caroline du Sud, puis une autre au Nevada. Mais tant qu'on n'aura pas vu Super Tuesday, on ne saura pas à l'impact réel de Michael Bloomberg dans ça.
Super Tuesday, il faut rappeler, c'est quoi, là?
C'est 20 primaires en même temps.
Puis des gros, puis des gros. Ah ouais, des comme gros, l'État de New York est là-dedans. Évidemment,
je pense que
faut que Bloomberg gagne l'État de New York, là. Tu sais, ça, dans le Super Tuesday, là, c'est comme minimum minimal, là.
Eh oui, il faut absolument qu'il gagne l'État
de
New York.
Parce qu'il a été maire de New York, évidemment. Fait que, tu sais, mais je suis d'accord avec toi.
Une drôle de campagne. Il donne pas d'entrevue. Il dit, il y a des publicités super léchées, produites probablement par les meilleurs. Il est rendu à 400 millions de dollars de media buying, qu'on appelle d'achat publicitaire dans les, ouais, dans les différents médias.
Il est prêt à dépenser combien de milliards, qu'il a dit?
Ben, il y en a 70, alors.
Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit.
Mais s'il en dépense deux, il en reste 68, ça va bien aller.
Je pense que c'est une affaire comme 3-4 milliards, tu sais, je veux dire.
Pas de limite.
Écoute, c'était carré.
Je ne sais pas ce que ça va donner. Et historiquement, ceux qui ont joué le jeu de ne pas faire l'Iowa, puis le New Hampshire, la Caroline du Sud, puis le Nevada, qui sont toujours avant le Super Tuesday, je pense à Giuliani, par exemple, ils se pètent la gueule parce qu'ils sont pas dans la dynamique qui s'enclenche avec le New Hampshire et l'Iowa.
Sauf que la dynamique de l'Iowa, du New Hampshire, c'est beaucoup une dynamique financière.
Oui, oui, absolument.
Lui, il a pas besoin de s'inscrire là-dedans, il a déjà le cash.
Il y a ça, mais il y a quand même, tu sais, c'est une société hyper médiatisée, les États-Unis. Ça fait que les caméras, soudainement, ils se tournent sur toi. Si t'es pas là, ils se tournent pas sur toi. Comment tu fais pour...
Si t'es pas là, en fait, s'ils se tournent pas vers toi, t'existes pas.
Exactement.
Fait que t'as beau avoir beaucoup, beaucoup d'argent, ça se peut que finalement Bloomberg se pète la marboulette.
Ça se peut.
Parce qu'il n'aura pas existé médiatiquement.
Ouais, et ça se peut.
Mais il est en train d'exister médiatiquement à travers ses pubs.
À travers
c'est
ses
ça,
pubs, mais
c'est
il,
ça,
pas,
son
il
pari.
Ne passe pas par le filtre des médias. Il se dit au diable, les médias traditionnels, moi, je m'en vais directement au peuple.
Exact.
Et il paraît qu'il aurait développé, avec les plus grands experts, le programme de médias sociaux le plus sophistiqué qu'on a jamais vu au monde. Comment rejoindre son électorat cible. Et puis, ils sont 2500 travailleurs à temps complet présentement et ils s'apprêtent à en engager 1000 de plus.
J'ai écouté une partie de la soirée hier, à un moment donné, je suis allé me coucher, là. Mais y a-tu un sondage sur les démocrates, pas sur les résultats de la primaire, mais sur un sondage sur les candidatures démocrates à l'intérieur duquel on retrouvait Bloomberg? Le dernier que j'ai vu, c'est il était à 9 %, là. J'étais la semaine passée, si je me trompe pas, Bloomberg était à 9 %. Il était, je pense, cinquième. Mais en tout cas, tu es en train de regarder ça sur ta machine. On va donner le résultat au retour si on le retrouve. Si jamais à la maison ou dans votre voiture, peu importe, là où vous nous écoutez, si vous avez eu connaissance d'un sondage dans lequel il y avait le nom de Bloomberg, vous pourriez nous l'envoyer par texto 98985. On va s'arrêter parce que au retour, Luc, on a de la belle visite.
Oui, on a M. Mulroney qui vient nous parler du grand combat de sa vie.
Le grand combat de sa vie.
Un des grands combats de sa vie, sans
voilà,
aucun doute.
Absolument, après la pause.